Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à tous. Nous allons ouvrir un passage de notre Bible dans un livre de l'Ancien Testament qui s'appelle le livre de Néhémie. J'aimerais, avant de faire la lecture, illustrer cette pensée et dire, dans ce que nous connaissons bien dans notre pays, où il y a de beaux châteaux, il y a en effet des châteaux forts, et un château fort dont l'architecture est la plus parfaite a toujours quelques faiblesses, et il faut quand même colmater les brèches. L'étanchéité doit être totale. Et cette image emblématique que je voudrais développer avec vous, c'est justement l'emblème de la vie de la foi ou d'une église qui est menacée. Alors, je veux passer maintenant à la lecture du texte de Néhémie, chapitre 4, et quelques versets. Lorsque Sanballa apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous les monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobija, l'ammonite, était avec lui et il dit qu'ils bâtissent seulement si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Ça, c'est la version des ennemis de Néhémie. Et nous avons le verset suivant qui dit, c'est une prière de Néhémie, écoute notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Voilà la situation. Maintenant, nous allons rentrer dans le commentaire. Et le titre que j'ai donné à notre entretien, c'est « Colmater les brèches ». Et nous savons que ce livre a été écrit dans un contexte de réveil spirituel. Les Juifs, reviennent dans leur pays d'origine, en Israël, et il y a là tout un mouvement chez les Hébreux pour reconstruire le temple de Jérusalem, mais aussi les fortifications qui entourent la ville et le temple. Et voilà ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est tout simplement, à travers des paroles, des menaces, l'offensive des adversaires de Néhémie. Les noms sont donnés, on ne va pas s'y arrêter. Et justement, le motif de ces insultes, de ces provocations, c'est le découragement des Juifs d'entreprendre l'œuvre de Dieu. Il y a deux forces opposées qui sont mises en présent. Il y a le peuple de Dieu, représenté par Néhémie, qui est un chef, un gouverneur, et les ennemis de ce même peuple, dont le but avoué est d'empêcher la reconstruction de la muraille de la ville de Jérusalem, pour la protéger naturellement. Une petite remarque, c'est que l'ennemi dont il est question prend le visage d'homme, mais il faut toujours penser que dans ces histoires de l'Ancien ou du Nouveau Testament, il y a toujours un arrière-plan qui découvre les machinations d'esprits ténébreux et destructeurs. Nous avons un texte qui nous est laissé par l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, où nous sommes exhortés véritablement à lutter. Et Paul dira, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, les princes des ténèbres et contre des esprits méchants dans les lieux célestes. » Il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde de l'invisible. Alors, pour continuer, les Juifs rescapés de l'exil, comme je l'ai dit tout à l'heure, se retrouvent à Jérusalem libérés avec la détermination de rendre à la ville sainte sa position spirituelle qu'elle avait jadis. Et le verset 6, que nous n'avons pas lu, mais je vais développer différents versets de ce chapitre, il est dit ceci, « Et le peuple prit à cœur pour le travail de la reconstruction de la ville de Dieu. Il prit à cœur et il y a eu un élan de consécration, volonté ferme de servir Dieu, d'accomplir une œuvre à la gloire de Dieu, et cela va déclencher une farouche opposition, mais ça sera un défi à relever. Le verset premier, je le reprends, lorsque les ennemis, donc il y en a un qui s'appelle Sambala et l'autre qui s'appelle Tobija, eh bien, lorsqu'ils apprirent que, eh bien, là, les Hébreux étaient en train de reconstruire la muraille, il fut en colère et très irrité. L'irritation des esprits des hommes, mais fomentée d'en haut par toutes sortes d'esprits méchants, de toutes sortes de mauvaises choses. Et la cause est tout simplement la jalousie. Je vais un peu plus loin et au verset 2 et 3, il est dit ceci. Alors, ces hommes-là, ces hommes méchants, inspirés par les mauvais esprits, se moquèrent des Juifs et ils ont dit devant leurs soldats tout simplement, eh bien, qu'est-ce que font ces Juifs impuissants? Est-ce qu'on va les laisser faire? Est-ce qu'ils vont sacrifier tout à nouveau dans le temple de leur Dieu? Vont-ils achever? Redonneront-ils à ces pierres ensevelies, eh bien là, qui sont consumées par le feu, eh bien, vont-ils réussir? Ce qui se traduit par la moquerie, des vexations et des contrariétés, provocations, tout pour susciter des réactions. Alors comment les Juifs vont-ils répondre? Et nous sommes nous-mêmes quelquefois confrontés avec des situations d'épreuve, avec des situations troublantes, avec des situations dont nous ne comprenons pas ni les raisons, ni les causes et les origines. Alors qu'est-ce que nous allons faire et comment nous allons nous comporter? Au verset 4, eh bien, c'est Néhémie qui va réagir le premier, il est le chef d'ailleurs, et il va réagir par une prière tout à fait puissante, et une prière formidable. Et il dira, mais écoute notre Dieu, comme nous sommes méprisés, nous sommes ton peuple, alors fais retomber les insultes sur leur tête, et la suite naturellement, eh bien, vous pourrez la lire vous-même. La prière, remettre à Dieu l'injure en dénonçant les agissements des ennemis, autant les hommes que ce qu'il y a derrière les hommes pour les motiver. Et faut-il naturellement discerner qu'il y a un autre monde qui nous environne, surtout lorsqu'il s'agit de servir Dieu, lorsqu'il s'agit de se convertir à Dieu, lorsqu'il s'agit de changer de vie, de vouloir changer de vie, alors à ce moment-là, eh bien, ça déclenche tout un monde d'adversité. Alors seul Dieu joue à juger et laisser faire à Dieu, ça c'est tout simplement de la sagesse. Nous avons la prolongation de cette histoire qui commence et qui va se développer à travers des combats et des luttes. Au verset 6, il est dit ceci, « Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Et le peuple, naturellement, nous l'avons lu tout à l'heure, et je le répète, prit à cœur ce travail. Les soulagements de la supplication, les compensations de la prière en attendant, eh bien, l'exaucement. Et ça naturellement, eh bien, ça s'appelle la paix intérieure pour faire confiance à Dieu, de faire confiance à Dieu. Toutefois, la situation se complique et s'amplifie. Et c'est ce que nous montre le verset 7 et 8. Mais ces fameux esprits, ces fameux ennemis de Sambala et Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Astoniens, c'est-à-dire, eh bien là, tous ceux qui sont des nations d'origine cananéenne, furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Alors ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage, et cela naturellement, eh bien, que ça aille plus loin. L'ennemi organise une offensive d'envergure, c'est-à-dire la guerre, et ils veulent généraliser le conflit. Vous savez que Satan ne s'est vu jamais vaincu. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 et verset 11, il est dit cette parole que j'aimerais noter, reporter devant vous. Il est question de prudence et de discernement lorsqu'il s'agit d'une lutte spirituelle. Et il nous est dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. La parole de Dieu nous enseigne grandement sur ce que l'on peut appeler théologiquement la démonologie, c'est-à-dire le monde invisible, le monde qui se cache là aux yeux des hommes et qui est puissant et agissant. Et le découragement, la surprise, l'étonnement n'y a pas sa place. Au verset 9, il nous est dit « Nous priâmes notre Dieu ». Alors, nous avons vu tout à l'heure que Néhémie a prié et que maintenant, c'est tout le peuple qui va se mobiliser à la prière. Nous priâmes, ils sont unis, ils sont ensemble, nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Il y a naturellement l'intervention de Dieu toute-puissante, souveraine, qui est attendue. Mais en attendant, là, ils ont demandé à Dieu et de pouvoir avoir quelque chose de concret pour établir une garde, une surveillance. Et nous pouvons penser que, il faut faire la preuve de réactivité spirituelle, vigilance et discernement. Et je crois que pour une église qui est attaquée, pour un chrétien qui est attaqué d'une manière ou d'une autre, soit par des ennemis humains ou alors des ennemis humains doublés de méchanceté et d'une forme d'occultisme, il y a naturellement la vigilance et le discernement. Côté ennemi, celui-ci compte sur un découragement probable pour ce que nous sommes, nous des hommes, démoralisés par la stratégie du harcèlement, voire l'épuisement au regard de l'importance de la tâche à réaliser. Il y avait naturellement toutes les murailles autour de Jérusalem, ça pouvait faire certainement quelques kilomètres probablement, parce que c'était quand même une grande ville. Et le verset 10 vient nous le préciser. Et nos ennemis disaient, lorsque nous avons quand ils ont prié, ils diront dans leur prière, « Les forces manquent à ceux qui portent des fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Et dans ce verset 10, c'est ce que je viens de lire, alors il nous est simplement précisé, « Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Le but, c'est tout simplement de faire cesser l'ouvrage. Or, Judas est prêt à capituler, à renoncer, sous la puissance, sous la surprise des ennemis, et la situation est périlleuse. Elle est aggravée par les rumeurs rampantes qui développent un état de peur permanent. Et dans le peuple de Dieu, le peuple hébreu, il y a de l'insécurité. Comment pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous réaliser? Il y a d'un côté, je l'ai dit, qu'ils ont pris à cœur de redonner le prestige, de redonner la beauté de la ville de leur Dieu, mais ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas comment faire devant la puissance et les menaces qui se développent. Et il y a là comme quelque chose, un état de peur permanente, d'insécurité, de déstabilisation. Nous l'avons lu à travers le verset 11. Il y a là naturellement un réflexe de survie, de secours. Dans l'épître de Jacques, il nous est dit ceci, et ça c'est une réaction suite à la prière, c'est une réaction suite à nos craintes et à nos peurs. Il est dit, mais soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Soyez, nous dit Pierre, soyez sobre, veillez, car le diable rôde comme un lion rugissant, sachant qui il dévorera. Alors, nous avons naturellement une prolongation pour redonner finalement les forces à ce peuple qui est découragé devant l'épreuve, la tribulation qui se présente à eux. C'est dans l'épreuve, et je voudrais faire cette réflexion, que se révèlent les plus beaux élans de solidarité qui donnent la victoire, qui donnent la victoire à ceux qui prient, qui donnent la victoire à ceux qui sont croyants. Et nous voyons qu'au verset 12, il nous est simplement appelé, « Or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où nous se rendîmes vers nous, ils se rendîment vers nous. » Et c'est permettre d'organiser la résistance. Au verset 13, dans le commentaire, « C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. » sans toutefois jamais oublier que l'essentiel reste la fortification des cœurs par les promesses et souvenirs de Dieu de ce que tu avais fait dans le passé pour le peuple d'Israël. Oui, il y avait besoin d'une fortification des murailles, hein, de tout simplement obstruer les brèches, colmater les brèches, mais il y avait aussi besoin d'une fortification des cœurs pour permettre une prière en effet utile et efficace. Et nous avons naturellement la fortification des cœurs, hein, sur un autre plan, et de nous souvenir des promesses de Dieu et des souvenirs de Dieu. Le verset 14 est simplement évident. « Je regardais, Néhémie regarde, et m'étant levé, j'ai dit à tous les autorités du peuple, ne craignez point, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, et vos femmes et vos maisons. » Voilà, donc, il y a une parole qui est prise, parole d'autorité de Néhémie, pour encourager un peuple qui est découragé. Le verset clé, ce serait le verset 15, quand il est dit ceci, parce que la guerre n'est pas finie, le combat n'est pas fini, la lutte, finalement, ne fait que commencer. Le verset 15, il est dit ceci, je vais le relire deux fois, « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, que finalement, cette offensive a été dévoilée, Dieu anéantit leur projet, et ça, c'est important. Dieu a anéanti leur projet, le peuple a prié, Néhémie a parlé pour encourager, et c'est à ce moment-là que Dieu va véritablement agir pour délivrer son peuple. Dieu anéantit leur projet, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » Nous avons vu que les ennemis ont pris peur. La peur a changé de camp, en quelque sorte. La terreur, le découragement a changé de camp et Dieu anéantit leur projet. C'est le couronnement de la lutte spirituelle que nous avons vue sous différents aspects, la prière en particulier, qui a une grande place. Donc la lutte spirituelle qui se conclut par la victoire glorieuse d'Israël. Dieu avertit, puis il intervient pour laisser libre le chemin d'action à ses enfants qu'il a mandatés, parce que Dieu leur a donné l'encouragement, il leur a donné la volonté, il a restauré leur force et il a fait en sorte que maintenant ils se remettent au travail et la route est frayée. Au verset 16, il est simplement rappelé cette petite parole, « Depuis la moitié du jour, etc., les chefs étaient derrière toute la maison de Juda » et pour nous montrer qu'il y a eu l'unité. Sans unité, il n'y a rien de possible. Agir, mais attention, il faut rester sur ses gardes, car la moindre inattention, des brèches que nous n'avions pas vues, le moindre relâchement peut ouvrir de nouvelles brèches. Encore une belle image. Et je crois que c'est là, dans le Nouveau Testament, il nous est dit qu'ils se donnèrent la main d'association. Et je l'ai souligné tout à l'heure, l'unité contribue à la réussite. La première conclusion que nous pourrions faire, parce que ce texte est vraiment un texte cadre sur les luttes et les combats de l'Église, des Églises, de la personne du chrétien en lui-même, et puis de notre prise de position de foi. La victoire de l'œuvre entreprise, dans le cas qui nous intéresse, s'est réalisée et en effet, en raison de plusieurs éléments que je voudrais rappeler maintenant, parce que ce sont des cadres de réflexion pour ceux qui sont en lutte, pour ceux qui sont dans la bataille, dans la guerre, dans toutes sortes de choses. La première, c'est la prière, et la prière redoublée jusqu'au bout, c'est-à-dire que ça doit se faire sans relâche, avec persévérance. La deuxième chose, c'est la solidarité de tous et la place de chacun à son poste. Personne ne décourage son frère, sa sœur, les membres de son peuple. Ça, c'est la deuxième chose, la solidarité. Il y a l'unité du peuple dont l'objectif est à atteindre. Et il faut tous avoir la même vision. Vision d'un ensemble et non l'intérêt personnel. Et dans le verset 14, et à un moment donné, il est dit tout simplement, dans ce texte, combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Ça, il y a ce sentiment d'unité nationale, nous pourrions dire, et c'est quelque chose qui est essentiel. La troisième chose, quatrième chose, c'est le courage. un homme solitaire se décourage. L'effort pluriel suscite l'entourage et stimule l'effort. Et nous voyons que là, ils vont approcher de la victoire petit à petit en raison de ces principes, tout simplement. La cinquième chose, c'est la vigilance. La vigilance, c'est de rester véritablement, eh bien, comme le texte nous le dit, au verset 18, « Chacun des Juifs, chacun d'eux, travaillait et avait une épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés des uns des autres. » Je poursuis la lecture. « Au son de la trompette, remarquez bien ce qui est dit à ce moment-là. Rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. » Ça, c'est la promesse qui est donnée, le sonneur de trompette. Il y a toujours à un moment ou à un autre un élément qui est, eh bien là, perceptible dans notre conscience, dans notre esprit humain, par véritablement, eh bien, une parole que j'appellerais une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole d'inspiration pour nous dire, eh bien, continuez, parce que vous n'êtes pas loin de la victoire, il ne faut pas s'arrêter avant la victoire, eh bien, l'arrêt sera après avoir vaincu. Le sonneur de trompette est se laisser avertir et de pouvoir le percevoir, ça s'appelle le discernement et ça s'appelle de la perspicacité spirituelle, donc de se laisser avertir des dangers éventuels, mais toujours possible, même si nous avons fait un bout de chemin dans cette victoire. Un autre principe, c'est la ténacité et la détermination, ce que l'on pourrait appeler le sacrifice. Dans le verset 23, il est simplement rappelé ceci, « Et nous ne quittâmes point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni le jour, ni la nuit, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. » Voilà, il ne faut pas se désarmer, il ne faut pas se dépouiller, le sacrifice de notre vie, parce que ça supposait qu'ils avaient déjà travaillé toute la journée. Il y avait le travail probablement, eh bien, si la nuit le permettait, à cause d'une certaine clarté lunaire, on peut dire ça comme ça, et je pense qu'ils étaient extrêmement fatigués, ils étaient comme dans les tranchées. Ils étaient là sur une muraille et ils continuaient sans s'arrêter, et je crois que ça suppose le sacrifice. Si nous voulons de victoire d'une manière ou d'une autre dans notre vie, sur le plan matériel, sur le plan psychologique, sur le plan moral, sur le plan, eh bien là, de notre vie sociale, d'une manière ou d'une autre, il nous faut véritablement apprendre ce que Jésus nous dit, que si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors en résumé, il ne faut jamais oublier que l'ennemi est toujours là où se fait une œuvre qui glorifie Dieu. Notre responsabilité est de le voir là où il se cache et de combattre l'ennemi, parce que je parle de l'ennemi, avec des armes adéquates, c'est-à-dire spirituelles, avant qu'elles soient matérielles, militaires, charnelles, d'une manière ou d'une autre. Avant que, véritablement, eh bien, c'est selon le principe qui nous est donné dans Corinthiens, 2 Corinthiens nous dit Paul au chapitre 10, il est dit ceci, « Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes et elles sont efficaces pour renverser les forteresses de l'adversaire. » Il est bien dit, les armes, ce n'est pas des armes charnelles, ce n'est pas des armes humaines, ce ne sont pas des stratégies militaires, même si ça doit intervenir, peu importe. Mais elles sont puissantes et elles sont efficaces et elles renversent les forteresses de l'adversaire. Parce que derrière, ce n'est pas un général ou un je ne sais quel compte, là, eh bien, quelques degrés militaires que ce soit, ce n'est pas un homme, mais c'est véritablement Dieu qui est celui qui nous conduit à la victoire. Nous avons donc, et je conclue, un bel exemple à suivre. Rassembler les énergies et que nous pouvons puiser dans la prière. Attention à toutes sortes de dispersions causées par le découragement, par des fausses nouvelles, on appelle ça aujourd'hui des fake news, à travers en effet des attaques de l'ennemi subtiles, et nous avons besoin de nous défier de la dislocation dans le service. C'est de commencer le combat et c'est d'aller jusqu'au combat, jusqu'à la fin du combat, jusqu'au moment où Dieu va nous dire « combattez encore ».« combattez encore. À un moment donné, les choses vont se renverser. Les choses vont véritablement être modifiées d'une manière tangible, visible, et ça servira tout simplement pour nous-mêmes d'un témoignage de victoire, et puis de pouvoir, comme cette histoire a été écrite des siècles et des siècles avant nous, eh bien ça nous sert encore pour nous aujourd'hui de savoir qu'il y a encore eh bien des combats, il y a encore des luttes, il y a encore toutes sortes de difficultés que nous avons à affronter, et nous aurons à les affronter parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des croyants, nous faisons confiance à Dieu, nous mettons tout notre espoir dans sa délivrance, et il ne manquera pas de la donner. Alors j'encourage eh bien tous ceux et celles qui nous écoutent à véritablement eh bien redoubler de ferveur dans la prière, redoubler de pouvoir vous imprégner de la parole de Dieu qui est les ressources, une mine de promesses, de délivrance et de libération, et de nous amener eh bien à la paix. Il était question de guerre dans notre texte, eh bien de la guerre à la paix, et nous voyons que tout cela eh bien se fait parce que nous voulons véritablement eh bien là garder le calme de la foi, la paix de la foi, et qui va aboutir vers la joie de la foi en la victoire de Dieu. Merci, à bientôt, et que le Seigneur vous bénisse, et bon encouragement à tous ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie.